Le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va commencer avec une histoire d'amour, le Royal Wedding, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, la pompe de la monarchie britannique, la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, des robes, des chapeaux, on adore ça. Et je vous sens ému tous les deux. Raphaël.
Honnêtement, je m'en moque royalement puisque c'est le mot du jour. Ah oui, non, je me moque complètement. Par contre, je pense qu'il y a
Donc vous vous sentez un peu seul, considérant la fascination que suscite ce mariage, non seulement en Grande-Bretagne, mais ailleurs.
Mais je suis très content que deux personnes se marient, ou d'ailleurs que deux personnes s'aiment en général, même sans se marier. Mais non, ce que je trouve intéressant, c'est on peut en discuter, c'est la capacité qu'ont les monarchies aujourd'hui européennes à dissocier d'un côté un champ symbolique et le champ politique. Et que du coup, les gens peuvent être fascinés par des symboles, mais ils n'ont pas à faire de révérence ou à Theresa May. Alors, je ne suis pas devenu monarchiste dans la nuit, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'en gros, en France, on a le même type, pas autant, hein, mais le même type de fascination pour les couples présidentiels. Simplement, eux, ils ont réellement le pouvoir.
Donc, beaucoup moins.
Oui, mais ici, il y a quand même un truc. Oh, regardez comme il tient sa main, c'est extraordinaire. Et non, mais beaucoup moins,
enfin,
je suis d'accord.
Ça ne mobilise pas un pays tout entier,
d'accord,
des dizaines de millions
mais
de
téléspectateurs. Mais en un sens, voilà, il y a d'un côté la société du spectacle qui est incarnée par la monarchie, et de l'autre, Theresa May habite dans une maison normale, Downing Street, et dont on ne fait pas un personnage people. Donc à la limite, cette séparation-là du people et de la politique me convient.
Natacha.
En effet, à ceci près que finalement la spécificité française est peut-être dans le choix de De Gaulle de produire une constitution qui voulait non pas réunir le people et le pouvoir, pas
le
du
symbolique.
Tout, mais en effet prendre en charge le symbolique et le prendre en charge en fusionnant ce qu'incarne le chef de l'État et ce qu'est la nation, avec derrière cette idée que la nation est souveraine et que donc c'est le peuple qui, par la nation, et donc par son chef de l'État, exprime son indépendance. Donc vous voyez, il y a une chaîne symbolique comme ça, alors que dans la monarchie, et c'est peut-être ça qui est assez, à la fois assez drôle et assez consternant, c'est que dans cette monarchie telle qu'elle est réinventée en permanence par la société de consommation, finalement, ce que prend en charge la monarchie anglaise, c'est le besoin de spectacle, et une espèce de quintessence de spectacle qui va jusqu'au bout de la logique, puisque l'argent, les retombées commerciales attendues sont quand même s'élèvent à 1 milliard.
C'est absolument considérable.
C'est énorme.
Et en termes de fascination, et vous devez vous sentir un peu seul, Raphaël Glucksmann, qui vous
fichez
de cette union, on estime à 3 milliards de téléspectateurs le nombre de personnes qui ont vu donc le mariage de William, le frère aîné de Harry. 23 millions aux États-Unis, par exemple, qui est une république. Toutes les monarchies ne suscitent pas ça. Il se trouve que c'est la monarchie britannique. Pourquoi celle-là ? Et est-ce que les princes et princesses de la monarchie britannique sont des people comme les autres ?
Ben, celle-là, c'est celle qui a réussi à se mettre en scène le mieux, mais depuis longtemps. C'est-à-dire que ça date pas d'hier. Simplement, elle a réussi à prendre. Elle était déjà une monarchie à tendance impérialiste, c'est-à-dire que la reine était reine en Australie aussi bien qu'au Canada et en Inde. Donc, c'est déjà une monarchie à vocation quasi universelle, la monarchie anglaise. Et ensuite, elle a réussi à prendre le tournant sous cette reine-là, cette majesté-là, Elisabeth II, à prendre le tournant de la société de consommation ou du consumérisme assumé. Et donc, elle s'est transformée en brand,
en marque.
Bien sûr,
il y a ça, mais il y a aussi toute l'histoire de la monarchie britannique.
Mais c'est génial, l'histoire qui est transformée en produit de consommation.
Du Royal Wedding, Natacha.
Oui, enfin, ce qui est très drôle, c'est de voir à quel point, en fait, l'histoire de la monarchie n'existe plus que sous forme caricaturale de quelques symboles qui sont mis en avant. Mais ce qui intéresse les médias qui se pressent et qui nous vendent ce spectacle-là, ce n'est absolument pas l'histoire de la monarchie. C'est le conte de fées moderne. C'est la petite bergère qui vient épouser le prince. Parce qu'en
une
fait,
ex-comédienne
c'est ça qu'on
divorcée,
raconté.
Personnage de série, métisse,
bien
c'est
sûr.
Quelque chose que relèvent beaucoup de commentateurs en Grande-Bretagne.
Et on nous joue la comédie de la modernité. Et
pourquoi
on...
la comédie ?
Parce que derrière tout ça,
vous
il y a quelque chose
vous n'êtes vraiment pas romantique, ni l'un ni l'autre, c'est désespérant.
je pense qu'il n'y a strictement rien de romantique dans la façon dont est construit ce récit. Qu'il y ait du romantisme dans ce qui fait l'intimité de ce couple, très certainement, je je ne me prononcerai pas là-dessus. En revanche, dans la construction médiatique, il y a l'intégration de tous les ingrédients qui vont en faire un bon récit. Et c'est cela, en effet, que réussit la monarchie britannique, alors qu'entre nous, la monarchie belge, par exemple, n'apporte pas tout à fait ne comble pas ce besoin.
Non, mais la famille princière à Monaco, par exemple,
oui, elle fait ça très bien.
Un rôle à peu près comparable.
Ou en Espagne aussi, en partie. Et il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Alors, encore une fois, moi, je suis un républicain fervent. Je suis absolument convaincu.
On ne demande pas de devenir monarchiste.
Non, mais par contre, ce que je pense, c'est que ça peut nous interroger pourquoi en France, la démocratie fonctionne, le rapport au pouvoir, le rapport critique au pouvoir, fonctionne peut-être moins bien que chez nos voisins qui sont pourtant monarchiques. C'est très simple. En France, il y a un phénomène de courtisanerie alors qu'on vit en République qui est beaucoup plus fort. La prosternation des médias et des Parisiens devant le monarque. Mais traditionnellement,
c'est vraiment paradoxal. Traditionnellement,
est plus forte en France depuis De Gaulle, c'est vrai, est plus forte en France chez nos voisins. Pourquoi ? Mais parce que le pouvoir politique en France, ceux qui détiennent le pouvoir politique, sont investis d'une forme symbolique, d'une sorte de sacralité, alors qu'il y a eu une disjonction dans les monarchies constitutionnelles.
C'est vrai, pour certains présidents de la République.
Non, alors justement, c'est tout le problème, sans doute. C'est que notre système a été conçu par De Gaulle, qui finalement était quasiment monarchiste au fond de lui-même, qui a hésité à un moment donné à rétablir la monarchie en France et qui a gardé cette idée que celui qui portait le pouvoir devait aussi porter l'ensemble de l'histoire, de l'identité du pays.
Vous ne pouvez pas comparer le général de Gaulle et Antiphone avec le prince Harry et Meghan Markle.
Non, justement, je ne le fais pas. Ce que je veux vous dire, c'est que le problème du système français est qu'il est grippé puisqu'il nécessite que celui qui prend le pouvoir se détache de sa personne intime pour ne garder que la personne symbolique et pour n'être que l'incarnation de la nation. Alors que chez les Anglais, c'est beaucoup plus simple. C'est tout simplement que, en effet, l'incarnation de la mémoire de la nation, c'est cette famille assez foutraque. Alors, ça pose certains problèmes quand il y a des divorces un peu crapoteux. Mais sinon, globalement, c'est pas très compliqué à gérer. Chez nous, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que nous avons voulu, par la République, intégrer le peuple. C'est-à-dire que la nation et le peuple s'incarnent à un moment donné dans cette symbolique qui est portée par un homme, mais il n'existe pas en tant qu'homme, il ne doit pas se mettre en avant.
C'est gaulliste, au sens plus strict. Or,
voilà,
en France,
ça marche pas.
Même il y a toujours eu en France cette sacralité de la politique, mais simplement la Troisième République, par rapport à la Cinquième, la Troisième République, on sacralise les institutions de la République, on sacralise l'école, on sacralise la figure du hussard noir, on sacralise toute une série d'institutions républicaines, on sacralise finalement la République elle-même. Ce qui se passe avec la Cinquième République, c'est qu'en fait, on sacralise la personne du président de la République en tant que symbole, pas en tant que corps
intime. Qui doit s'effacer derrière ces institutions, et c'est ça que ne font pas les hommes.
C'est la figure du chef, du père, du roi qu'on sacralise.
C'est bien le problème, d'accord.
Un dernier mot, vous préférez le glamour et les paillettes de Cannes ou le grandiose du Royal Wedding ?
Écoutez, tout cela relève tout de même du spectacle, en effet.
Je préfère ni l'un ni l'autre.
Vous n'aimez pas l'amour.
Oui, je suis vraiment méchant.
Mais le duel continue.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Et dans l'actualité, l'Italie et ce qui se joue sur la scène politique chez nos voisins avec l'alliance entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles. Écoutez Matteo Salvini, le chef de file de la Ligue du Nord, suivi de la félicitation de Marine Le Pen.
Nous devons faire un nettoyage de masse en Italie, rue par rue, place par place, en utilisant la manière forte.
Deux visions du monde se font face, deux conceptions de l'homme et du monde diamétralement opposées. Irréductibles, exclusives l'une de l'autre. Un face-à-face que l'on trouve en France, mais aussi en Europe, comme le prouve la coalition allemande ou les élections italiennes. Matteo, j'en profite pour te saluer et te féliciter de la part de tout le Front National.
Et c'était donc en mars dernier, au lendemain du succès de la Ligue du Nord. Raphaël Glucksmann, vous teniez à revenir sur ce qui se joue chez nos voisins. Est-ce que c'est un cas particulier, une histoire italienne, ou est-ce qu'au fond, cette alliance, cette plateforme de gouvernement, cette jonction entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles pourrait faire école ?
C'est-à-dire qu'on a toute une série comme ça de cas qui, à chaque fois, nous dit-on, sont particuliers. Et effectivement, chaque cas est particulier. L'Italie a sa propre histoire. Mais là, il s'agit d'un événement qui est, en un sens, plus profond que ne l'était le Brexit. Le Brexit, c'est la sortie de l'Union européenne d'un pays qui a toujours été, en quelque sorte, en marge des institutions européennes. C'est un moment important de l'histoire européenne qui devait nous faire réfléchir, et peut-être n'a-t-on pas assez réfléchi. Mais là, l'Italie, c'est un membre fondateur de l'Union européenne. C'est le pays qui, il y a encore quelques années, était le plus europhile du continent. Et c'était surtout le pays, si vous vous souvenez bien, où il y a 3 ans, toutes les élites européennes regardaient l'Italie en disant « ils ont trouvé la solution ». Qui s'appelait Matteo Renzi. Il était jeune, il était brillant, il était réformateur.
Il était beau, il sentait bon le sable chaud.
Il avait tout ce qui caractérise peut-être d'autres figures politiques actuelles, y compris chez nous, et qu'on célèbre. Et en 3 ans, il y a eu un renversement de la situation politique totale en Italie. Et cette alliance du mouvement 5 étoiles avec la Ligue du Nord, et la Ligue du Nord, encore une fois, il faut bien prendre en compte ce que c'est. C'est un parti, un mouvement qui s'exprime comme le Front National ne s'exprime plus, nettoyé dans l'extrait que vous avez dit, qui ne refuse de condamner quelqu'un qui prend une carabine pour aller tirer sur les Noirs dans la rue.
C'est un parti qui se revendique lui-même comme post-fasciste.
Et donc, on a, avec Salvini, ce qui se fait de pire dans les extrêmes droites européennes, qui va accéder au gouvernement, au pouvoir. Et il y a là un immense danger. Je pense qu'aujourd'hui, en France et ailleurs en Europe, on le traite de manière extrêmement légère. C'est page 8 des journaux. Et c'est quelque chose qui va nous exploser la figure.
Natacha Polony.
Je pense qu'il y a 2 points sur lesquels il faut réfléchir. Le premier point, c'est la façon dont, par un traitement médiatique, en effet, qui absorbe les événements, on nous a expliqué pendant plusieurs semaines là, que de toute façon, ces gens-là n'arriveraient jamais à s'entendre, que leur programme ne coïncidait pas, ne pouvait pas se mettre d'accord. Or, ce que nous observons, c'est que finalement, ce qui rassemble le mouvement 5 étoiles et la Ligue est sans doute plus fort que ce qui les oppose, à savoir que ce qui les rassemble, ce qui est fondamental, c'est la remise en cause de ce système au sens large, système incarné actuellement par l'Union européenne.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le mouvement 5 étoiles peut proposer dans le même temps une flat tax et le revenu universel.
Mais parce que ces questions économiques semblent finalement accessoires quand vient le fondamental qui est de remettre en cause ce qui apparaît comme une oligarchie. Et c'est pour ça que le deuxième point sur lequel nous devons réfléchir, c'est le fait que, en effet, Raphaël a raison, on nous avait vendu la solution comme étant la perpétuation du système sous une autre forme, plus moderne, plus sexy, etc. Là, ce qu'on voit, ce qu'on entend dans l'extrait que vous avez passé de Marine Le Pen, c'est en effet qu'elle se réjouit puisque c'est la consécration de tout ce qu'elle prétend porter, mais avec des termes d'une violence symbolique assez forte quand elle parle de diamétralement opposé, en appuyant bien d'ailleurs dans la voix exclusive, ce sont des visions exclusives du monde. Ce qui signifie en fait que on est dans une radicalité et dans une binarité qui n'est pas plus intéressante politiquement que ne pouvait l'être cette espèce de faux clivage gauche-droite dont on est en train de sortir.
Mais alors cette alliance entre l'extrême droite là-dessus. Et quelque chose et ben comme
voilà,
une forme de
on nous avait expliqué que ça ne pouvait
gauche,
pas marcher,
exemple,
sauf que ça marche.
Mais ça marche.
Raphaël Glucksmann.
Et quand vous avez dit, les questions économiques et sociales ne sont pas essentielles dans leur tête. Mais c'est précisément un des problèmes. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été critique sur l'emploi à tout va de l'expression populisme. Parce qu'il faudrait définir ce qu'on entend. Mais là, elle me semble justifiée. Pourquoi ? Parce que cette alliance illustre ce qui caractérise, en un sens, tous les mouvements dits populistes. C'est-à-dire une forme de flou. De flou sur les questions socio-économiques et de flou dans la question du programme et du projet. Parce qu'effectivement, la dynamique populiste, la stratégie, le populisme en tant que stratégie politique, définit que l'existence de l'oligarchie est le problème premier et finalement peut-être même le problème dernier.
Voilà.
Et que tout doit se définir par rapport à ça. Donc le « nous », c'est nous qui nous opposons à cette oligarchie.
C'est pour ça que je soulignais les mots de Marine Le Pen
sûr.
Qui sont dans la binarité totale.
Bien sûr, dans la binarité totale, mais c'est ça la stratégie populiste en politique.
Alors qu'il faut une pensée dialectique pour dépasser
le
système tel qu'il existe aujourd'hui.
Le problème qui se pose, c'est que finalement, ils ont deux projets socio-économique a priori antithétique, la Ligue du Nord étant vraiment ultra-libérale sur la politique fiscale en tout cas, et le mouvement 5 étoiles étant beaucoup plus social.
Mais ils partagent le rejet des élites, de l'Europe, des migrants, des musulmans.
Sauf que sauf
colère,
en réalité, ils s'en foutent. C'est ça la vérité, c'est qu'ils s'en foutent. Et que ce flou permet... En réalité, une conquête du pouvoir, le populisme est une stratégie de conquête du pouvoir, mais
Raphaël,
absolument pas
la question,
un engagement
sur un
projet.
Qui a fait monter
Natacha.
Cette colère qui justifie qu'on se foute du reste? Parce que si cette colère est si puissante au point qu'on se foute du programme économique, c'est que des gens l'ont fait monter, c'est qu'un système a exacerbé cette colère et c'est ça qui est dangereux.
Pour refermer cette page, je demandais au début si c'était une histoire italienne ou si ça pouvait avoir des échos, par exemple, en France. En France, on n'imagine pas populistes de gauche et populistes de droite se réunir et former un accord de gouvernement.
Non,
et même si on les renvoie souvent dos à dos.
On ne l'imagine pas. Simplement, j'aimerais juste rappeler que l'Italie, loin d'être un pays attardé, a toujours fonctionné comme une forme de laboratoire politique. Or, dans les années 90, il y avait une figure qui s'appelait Silvio Berlusconi. Tout le monde s'en foutait, tout le monde se moquait de lui. Eh bien, aujourd'hui, Silvio Berlusconi dirige les États-Unis d'Amérique sous la peau de Donald Trump.
Et le vrai revient.
Et donc, il y a un enjeu, à mon avis, essentiel. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à cette question. Et je trouve qu'on en a fait beaucoup sur le Brexit et on en fait très peu sur l'Italie.
Dernier chapitre du duel.
Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. Je ne veux pas dire que c'est ce que tout écrivain veut. Mais moi, ce que je voulais essentiellement, c'était donc... Parler, je me rappelle que je disais ça dans les mémoires des Cafirangers, parler aux gens pour ainsi dire de bouche à oreille. Parler de manière que les gens s'identifient avec mes héros, mes héroïnes, ou tirent profit de ce que je leur disais.
Cette voix, c'est bien sûr celle de Simone de Beauvoir. C'était à la fin de sa vie et elle revenait sur son œuvre, événement dans la vie de la République des Lettres. Simone de Beauvoir, publiée dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Natacha, ça vous inspire quoi ?
Plusieurs choses.
Simone de Beauvoir, dans superstar.
Alors, arrêtons avec... même si je pense en effet, hélas, que la publication dans la prestigieuse collection de la Pléiade ne vaut peut-être plus qu'elle valait avant. Vous allez m'accuser de nostalgie.
Non,
mais
jamais.
Je pense
ou
que
de parisianisme.
Ils sont entrés des écrivains qui font qu'en effet, il était temps que Simone de Beauvoir y entre parce qu'elle vaut certainement plus et elle restera davantage. Bon, premier point. Mais deuxième point, après, ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit Simone de Beauvoir. Il y a l'écrivain intime, il y a ce travail d'autobiographie qui est absolument passionnant, et puis il y a la figure féministe. Et là, on n'a pas le temps, j'espère que nous aurons l'occasion de redébattre là-dessus, mais Simone de Beauvoir a marqué un moment du féminisme qui ne peut plus aujourd'hui, qui doit être dépassé parce qu'il y a des bouleversements même anthropologiques qu'elle ne pouvait pas prévoir. Et donc sa vision
des rapports hommes-femmes. Mais alors je ne sais pas si on allait plus que par le passé, mais je disais que c'était une superstar de manière ironique pour dire qu'elle était aujourd'hui en train de redevenir une icône des mouvements de libération des femmes, de mouvements pour l'égalité, des mouvements féministes.
Oui, disons que ce n'est pas pour ça qu'on la lit plus.
Oui, hélas. Raphaël.
Non, on ne la lit pas plus, mais par contre, son impact est immense. C'est-à-dire qu'il y a, elle a incarné une forme d'impératif catégorique et de quête d'émancipation. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et je pense qu'elle restera, et elle restera toujours, une figure discutée, mais une figure qui a fait faire un bond de géant à la cause de l'émancipation féminine.
Vous êtes plutôt Mémoire d'une jeune fille rangée ou plutôt Deuxième sexe ?
Ah non, mais le Deuxième sexe est une œuvre absolument majeure. Il faut simplement avoir conscience que ça nous parle d'une humanité qui était autre, qui est une humanité d'avant la pilule, d'avant tout ce qui a permis petit à petit aux femmes de reprendre en main leur corps, d'avant le transhumanisme, d'avant tout ce qui est en train de bouleverser l'humanité dans son ensemble.
Amour,
donc c'est passionnant, mais il faut maintenant penser autrement.
Je ne pense pas
autrement.
Que nous soyons dans une humanité autre, je pense qu'on peut être dans des circonstances historiques différentes, mais fondamentalement, je suis convaincu, moi on pourra en reparler, parce que là on n'a pas le temps, mais que ça peut toujours nous parler.
Il faut le lire.
Il faut lire Simone de Beauvoir, lire Le Castor. Le grand face-à-face de France Inter continue avec le débat.